Alexandre Dubé. Organisé, préparé, informé. Vous écoutez Alexandre Dubé.
L'expert en cyclisme Louis Bertrand est avec nous. Salut Louis.
Salut Alexandre.
Alors, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine sur le circuit UCI World Tour?
Bien, en World Tour, le Britannique Ethan Hayter, 23 ans, a remporté le Tour de Pologne, dernière épreuve World Tour avant le Tour d'Espagne. Ethan Hayter est un coureur complet, il est solide contre la montre, rapide au sprint, il se débrouille en moyenne montagne. On annonce sa présence au Tour d'Espagne, alors c'est dire qu'on ne le verra pas au Canada cette année, semble-t-il. Alexandre, si tu me permets, hors World Tour, quelques prestations d'athlètes qui me tiennent à cœur. Mm-hmm. Charles-Étienne Chrétien d'Amos, 23 ans, a deux top 20 d'étapes autour du Portugal qui s'étend jusqu'à lundi prochain. Charles-Étienne a subi une vilaine blessure à un coude et un traumatisme lombaire avec irradiation dans la jambe gauche sur chute dans une descente autour d'Alsace le 29 juillet. Ça fait très peu de temps, 29 juillet. Alors, le voir à ce niveau au Portugal est épatant. Son coéquipier Nick Zukowski de Sainte-Lucie des Laurentides, 24 ans, a été le meilleur de la formation pro-américaine Human Powered Health au Saskatoon, couru sur quatre étapes en République tchèque, où Nick se classe 22e au final. Charles-Étienne et Nick étaient deux des cinq membres de l'échappée au long cours qui avait animé le Grand Prix cycliste de Montréal 2019. Et enfin, Simone Boilard de Limoilou à Québec, 22 ans, termine 14e contre la montre et 7e sur route aux Jeux du Commonwealth en Angleterre, quelques jours seulement après avoir complété le Tour de France femmes. Les prochaines épreuves World Tour, le Tour d'Espagne du 19 août au 11 septembre, la Classique de Hambourg le 21 août, la Bretagne Classique à Plouet le 28 août, le Grand Prix cycliste de Québec le 9 septembre, le Grand Prix cycliste de Montréal le 11 septembre.
Bon. Est-ce que d'ailleurs, la liste de participants commence à se préciser pour les Grands Prix cyclistes, Louis?
J'aimerais te répondre oui, Alexandre, mais on est sur nos gardes, nos réserves. Les alignements pour le Tour d'Espagne n'ont pas encore été dévoilés à 10 jours de la première étape contre la montre par équipe sur 23 km à Utrecht. Alors, les participants à la Vuelta à España ne disputeront donc pas nos Grands Prix canadiens. On sait que Tadej Pogacar, on en a déjà parlé, toi et moi, Alexandre, Tadej Pogacar, vainqueur des Tours de France 2020 et 2021, deuxième cette année en France, a l'intention de courir à Québec et à Montréal. Le surhomme belge Wout Van Aert, maillot vert du Tour de France, 8 victoires en 2022, dont 3 étapes du Tour, a répété hier qu'il passerait par le Canada pour la première fois. Passerait par le Canada pour peaufiner sa préparation à la course sur route des championnats du monde en Australie le dimanche 25 septembre, précisément 2 semaines après le Grand Prix cycliste de Montréal. Van Aert ne fera pas le contre-la-montre des mondiaux le 18 septembre, alors il mise tout sur la route aux championnats du monde. L'Australien Michael Matthews, vainqueur d'étape à Mende au Tour de France, lauréat des Grands Prix de Québec et de Montréal coup sur coup en 2018 et qui a encore gagné à Québec l'année suivante, a annoncé sa venue chez nous. L'ancien triple champion du monde, Peter Sagan, le Slovaque Sagan, 3 fois vainqueur au Canada. Et le champion olympique des Jeux olympiques de Rio, Greg Van Avermaet, qui a remporté les Grands Prix cyclistes de Montréal 2016 et 2019, ont eux aussi placé nos épreuves World Tour canadiennes à leur agenda du mois prochain. Hugo Hull, Antoine Duchesne, Guillaume Boivin, pour ne nommer que ces 3 Québécois, les 3 Québécois du dernier Tour de France, vont courir chez nous en septembre, on le dit de manière officieuse.
Ben, ça promet, en tout cas, Louis, avec tous les noms que tu nous as donnés, hein, je comprends. Je veux qu'on profite de ton expérience aujourd'hui, parce que souvent, dans l'esprit de plusieurs, on dit « Ah, le vélo, c'est un sport individuel ». Or, il n'y a rien de plus faux, c'est un sport d'équipe. Alors, amène-nous un peu avec toi dans les coulisses. Explique-nous comment une équipe planifie, prépare une course.
Il y a un meeting d'équipe avant le départ de chaque course, que ce soit à l'hôtel ou dans l'autobus, dans le car de l'équipe. Le parcours est analysé pour une dernière fois. Les coureurs ont déjà fait leur devoir la veille ou le matin même à partir du guide de course que tous les organisateurs remettent aux équipes, le guide dans lequel tu trouves toute l'information sur les parcours et même davantage. Alors, dans ce meeting, on précise où se trouvent les zones de ravitaillement, on le rappelle, certains pièges à éviter sur la route, comme par exemple des tronçons exposés au vent où la course peut exploser. Le directeur sportif distribue les rôles, voit à ce que chacun comprenne bien ce que l'on attend de lui. Un ou deux peuvent se porter volontaires pour se glisser dans l'échappée. Il y a des échappées sur pratiquement toutes les courses. Et aussi, on identifie quels sont les principaux adversaires sur telle ou telle course. Il faut constamment avoir les adversaires à l'œil. Tu sais, sur une course par étape, disons, là, ou même chez nous, au Grand Prix du Cyclisme Québec ou de Montréal, alors, est-ce qu'on a, au sein de l'équipe, un coureur qui a le potentiel de briguer une place au classement final, que ce soit sur une course d'un jour ou sur une course par étape? Alors, la réponse est oui, on va bâtir autour de lui dans la quête de cet objectif. Il faudra des hommes pour la plaine, les étapes sur terrain plat, des hommes pour la plaine pour filtrer les échappées, s'assurer que les autres candidats au classement général ne se sauvent pas, mais le cas échéant, pour chasser derrière l'échappée, garder l'écart dans des proportions acceptables, souvent, toujours, je dirais, même dans une étape de plaine ou de difficulté moyenne, ce sont les équipes des sprinteurs qui vont finir le boulot et vont revenir sur l'échappée avant la fin. Dans l'équipe d'un vainqueur potentiel de course par étape ou de course d'un jour, il y aura aussi deux ou trois grimpeurs pour imposer un tempo soutenu en montagne, susceptible de dissuader ceux qui envisagent de passer à l'attaque ou encore comme en plaine pour revenir sur des coureurs en échappée. Écoute, en gros, le travail d'un lieutenant, d'un équipier, ça consiste à voir à ce que son leader dépense le moins d'énergie possible en restant calé dans les roues jusqu'au moment clé, jusqu'à la fin de l'épreuve pratiquement. On protège du vent, on le protège des ennuis mécaniques, des soucis d'alimentation. Le leader au sein de l'équipe, Alexandre, le gars qui est capable de gagner, ben on va dire qu'il est logé et qu'il est nourri par ses coéquipiers.
C'est quand même pas rien. Comment on communique dans un peloton? Comment, par exemple, les stratèges de ces équipes-là relaient l'information aux cyclistes qui sont dans le peloton?
Il y a des oreillettes et des radios émettrices, réceptrices. Alors, le port des oreillettes n'est permis, cependant, faut-il le spécifier, que sur les courses de niveau World Tour, permis par l'Union cycliste internationale. C'est une ligne de communication entre le directeur sportif à bord de sa voiture, dans la caravane qui suit la course, et ses coureurs. De même que pour les coureurs entre eux, peuvent se parler avec ses radios et ses oreillettes. Le directeur sportif transmet ses consignes, que ce soit en matière de stratégie, de dangers imminents sur la route, des questions de ravitaillement, de dépannage mécanique, crevaison. Il suit la course sur un moniteur dans la voiture. Il y a eu jadis une faction anti-oreillette, une faction selon laquelle le cyclisme professionnel sur route était devenu un jeu vidéo entre les directeurs sportifs, avec des coureurs téléguidés, robotisés, incapables de prendre des décisions eux-mêmes. Le cyclisme avait, selon cette école de pensée, perdu toute spontanéité avec l'avènement des oreillettes au milieu des années 90, mais je peux dire que ce mouvement s'est essoufflé. Et aujourd'hui, que l'on soit pour ou contre, les oreillettes sont bien implantées, elles sont là pour rester.
Ouais. C'est intéressant ce que tu disais tantôt. Bon, le leader, il est logé, nourri pratiquement. Alors, de ce que j'en comprends, si par exemple, je sais pas moi, il a faim, il a soif ou quoi que ce soit, pendant le parcours, ce sont ses équipiers, ses lieutenants qui, si tu prêtes l'expression, qui charrient les bouteilles d'eau ou quoi que ce soit, question qu'il n'ait pas à traîner tout ça, donc ajouter du poids sur son vélo. Est-ce que c'est bien ça?
C'est exactement ça. Les équipiers se laissent redescendre à la voiture. On parle des oreillettes aussi. Bon, le coureur va dire à son directeur sportif, écoute, je m'en viens, prépare des bidons. Et on voit, quand on suit le vélo, je dirais plus à la télé, parce qu'il n'y en a plus chez nous, mais sur Internet, tu suis les courses, tu vois des coureurs se laisser redescendre à la voiture et remonter avec, écoute, parfois, là, dans le maillot, 15 à 20 bidons et s'en vont ravitailler leur coéquipier et le leader lui apporte aussi des barres énergétiques. Il y a les zones de ravitaillement, les coureurs ramassent des musettes aussi. Le leader peut certainement ramasser sa musette également. Mais tu sais, on le bichonne, on s'assure, comme je le disais tout à l'heure, qu'il dépense le moins d'énergie possible. C'est pas lui qui va devoir redescendre et remonter à vélo vers le peloton. T'sais, tout ce travail-là est fait pour lui. Mais ces gars-là, les leaders, ils ont un talent unique. Ce sont les plus forts du peloton. Quand vient le moment de s'expliquer, souvent les lieutenants ont disparu et ça se passe entre les leaders en fin de course. Ce sont les gars qui rapportent le beurre et le pain, tu sais, qui glanent les points UCI. C'est pour ça aussi que c'est super sympathique de voir parfois ici et là des équipiers remporter de grandes courses. Par exemple, Hugo, le Tour de France au mois de juillet, n'est-ce pas?
Ah ben, tout à fait. C'est un grand moment de l'été, ça, assurément. Puis on a bien hâte de le voir chez nous aussi. Rappelons les dates. Grand Prix cycliste de Québec le vendredi 9 septembre prochain et Grand Prix cycliste de Montréal le dimanche 11 septembre. Louis, merci beaucoup. On refait ça la semaine prochaine avec grand plaisir. Salut.
À la semaine prochaine, Alexandre. Au revoir.